Vous écoutez, on lit pour vous.
Est-ce vrai que lorsqu'on arrache un cheveu blanc, il y en a deux qui repoussent? Un texte de Mathieu Sainte-Marie, paru le 4 avril 2024 dans le magazine Protégez-vous. Un de perdu, 10 de retrouvé, dit-on à qui vit une rupture amoureuse. Mais l'adage ne s'applique pas à la perte d'un cheveu blanc. En effet, ce n'est pas parce que vous en arrachez un que plusieurs autres vont se mettre à pousser. Loin de là. Le follicule pileux, une cavité de la peau dans laquelle le cheveu prend naissance, ne peut abriter qu'un poil. Donc, ce que vous faites à un cheveu n'affecte pas ses voisins. Ainsi, si vous en arrachez un seul pourra repousser. En ce qui concerne la couleur, sachez qu'arracher un poil blanc n'en fera pas apparaître un brun comme par magie. Cette agression du cuir chevelu est inutile, puisqu'un autre cheveu blanc prendra la place de celui que vous avez éliminé. Il risque même de repousser plus dru et d'être plus visible que son prédécesseur. Un processus irréversible. L'apparition d'un cheveu blanc indique que le processus naturel du vieillissement est bel et bien enclenché. La raison? Votre corps a commencé à générer moins de mélanocytes, ces cellules chargées de produire la mélanine qui colore vos cheveux et votre peau. Au fil des années, la fabrication de ce pigment ralentit jusqu'à cesser complètement. Les repousses contiendront donc le même taux de mélanine et auront la même couleur que le cheveu arraché. À l'instar de la calvitie, la canicie, le processus de décoloration des cheveux, commence généralement sur le haut de la tête et les tempes avant de s'étendre vers l'arrière. Tôt ou tard, toute la chevelure deviendra blanche. Qu'est-ce qui est en cause? La génétique, comme l'a confirmé une étude britannique publiée en 2016. Si votre père ou votre mère a eu les cheveux blancs à 50 ans, vous risquez d'en avoir à cet âge à votre tour. Le stress aurait également un impact sur le phénomène, ont avancé en 2021 des chercheurs américains, en ajoutant toutefois que, dans certains cas, les cheveux blancs disparaîtraient avec la source de stress. Les bouleversements hormonaux et le tabagisme peuvent aussi stimuler le grisonnement. Vous n'aimez pas voir vos cheveux blanchir ou prendre une teinte poivre et sel? Plutôt que de les arracher, vous pouvez les camoufler sous une coloration temporaire ou permanente. Ou, tout simplement, les assumer, comme le font désormais bon nombre de célébrités. C'était « Est-ce vrai que lorsqu'on arrache un cheveu blanc, il y en a deux qui repoussent? » Un texte de Mathieu Sainte-Marie, paru le 4 avril 2024 dans le magazine « Protégez-vous ».
Nouvelle direction, nouveaux défis. Magali Boudon au Conseil québécois LGBT. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 27 octobre 2025 dans le magazine Fugue. Depuis plusieurs mois, le Conseil québécois LGBT, CQ-LGBT, doit composer avec de nouvelles réalités. En août dernier, le conflit israélo-palestinien s'est invité dans les festivités de Fierté Montréal. L'enjeu, la présence ou non de groupes LGBT juifs au défilé. Entre déclarations contradictoires et revirements, les organismes membres du CQ-LGBT se sont positionnés, certains soutenant Fierté Montréal, d'autres non. Le tout coïncidait avec un changement de direction à la tête du Conseil, l'arrivée de Magali Boudon à la direction générale. Un mandat qui s'annonce exigeant, à un moment où les relations entre le gouvernement et les communautés 2SLGBTQ+, semblent marquées par la prudence. Les ponts demeurent, mais ils paraissent plus fragiles que jamais. À quelques jours de l'ouverture de Fierté Montréal 2025, une controverse a éclaté, révélant des divergences au sein même du CQLGBT. Quelle lecture en faites-vous aujourd'hui? D'abord, au Conseil québécois LGBT, nous avons voulu prendre du recul avant de poser des gestes ou de tirer des conclusions. Il nous fallait du temps pour faire le point sur cet été particulier. Dans l'ensemble, Fierté Montréal 2025 a été un événement exceptionnel, très suivi. Oui, il y a des leçons à tirer, mais on peut aussi y voir un moment de transition, une volonté de changement exprimée tant par les membres de Fierté Montréal que par les individus impliqués. Le CQLGBT ne s'est pas dissocié de Fierté Montréal. Nous souhaitons au contraire collaborer à sa reconstruction à la suite de la démission de l'équipe organisatrice. Nous voulons travailler avec celles et ceux qui reprendront le flambeau. En septembre dernier, le gouvernement n'a pas nommé de ministre spécifiquement responsable du Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, l'intégrant plutôt au portefeuille de la ministre de la Condition féminine, Caroline Proulx. Y voyez-vous un recul symbolique? Oui, c'est inquiétant. Le bureau relevait auparavant du ministre de la Justice, puis a été transféré à Martine Biron, alors ministre des Relations internationales et de la Condition féminine. Ce déplacement avait déjà soulevé des questions, notamment parce que la mention du bureau n'apparaissait pas sur la fiche officielle de la ministre à l'Assemblée nationale, ce qui avait mené à une pétition. Aujourd'hui, avec sa disparition sous le chapeau de la Condition féminine, on assiste à la même invisibilisation. Le ministre Jean-François Roberge a récemment interdit l'écriture inclusive dans toutes les sociétés d'État, sans consultation. Quelle a été votre réaction? Nous avons été surpris, surtout par l'absence totale de consultation et de fondements scientifiques. Le gouvernement agit sans dialogue avec les organismes communautaires, comme en juin dernier, lorsqu'il a décidé que les personnes seraient désormais incarcérées selon leur sexe anatomique plutôt que leur genre. Avec l'organisme Jury Trans, le CQLGBT a envoyé une mise en demeure au gouvernement du Québec. Nous avons choisi de ne pas trop médiatiser le document afin d'éviter qu'il soit récupéré par certains chroniqueurs ou groupes conservateurs. On constate un changement clair dans les relations entre le gouvernement et nos communautés. Cela s'est manifesté dès la création du Comité des sages. Malgré notre participation aux consultations et les assurances reçues, le rapport final a ignoré nos principales préoccupations. Cela a été ressenti comme une forme de trahison. Mais nous continuons à saisir toutes les occasions pour rencontrer les élus et leur faire entendre nos voix. Est-ce suffisant pour se faire entendre? Non, et c'est pourquoi nous révisons nos stratégies. Pendant longtemps, le CQLGBT a privilégié le lobbying politique. Aujourd'hui, nous optons aussi pour des recours juridiques, comme avec la mise en demeure sur la question de l'incarcération. Nous voulons que nos voix ne soient pas seulement entendues, mais reconnues, et que nos réalités soient prises en compte dans les décisions gouvernementales. C'était « Nouvelle direction, nouveau défi », Magali Boudon au Conseil québécois LGBT. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 27 octobre 2025 dans le magazine Fugue.
Qui es-tu, bel arbre? Un texte de Marie Tison, paru le 4 octobre 2025 dans la presse. C'est un bien bel arbre qui se dresse en haut de la falaise, mature, solide. Mais de quelle espèce s'agit-il? Ce serait chouette de pouvoir l'identifier. Marc-André Villard, biologiste à la CEPAC, suggère l'utilisation d'une clé d'identification comme celle que
propose Espace pour la vie sur son site internet. Il se fait toutefois un plaisir de fournir quelques bons indices pour se débrouiller lors de la prochaine randonnée en forêt. En partant, il est un peu plus facile de s'y retrouver avec les conifères qu'avec les feuillus. La première question à se poser, c'est si on se trouve devant des aiguilles ou des écailles, explique M. Villard. Si on a des écailles, ça va être un thuya. Il est moins abondant que les autres espèces de conifères, mais il peut être dominant dans certains milieux humides. Le thuya, qu'on appelle souvent cèdre, est un bois très prisé. On l'a donc beaucoup coupé. Si l'arbre a des aiguilles, il faut vérifier si elles sont en faisceau ou si elles sont individuelles. Dans ce dernier cas, on se retrouve devant un sapin ou une épinette. Le bon vieux truc, c'est de voir si les aiguilles roulent entre vos doigts ou pas, précise Marc-André Villard. Les aiguilles d'épinette sont plutôt carrées. Elles vont bien rouler. Alors que les aiguilles de sapin sont plates, elles ne roulent pas. Ce qui explique un peu les choses, c'est qu'il y a trois types d'épinettes, la noire, la rouge et la blanche. Si on regarde les rameaux de l'épinette noire, il y a des poils noirâtres qui lui donnent sa coloration et son nom. Il n'y a pas de poils sur l'épinette blanche. Le problème, c'est que sur l'épinette rouge, il y a un peu de poils. Ça devient compliqué de chercher à les distinguer. La situation est plus simple avec les pins, qui ont des aiguilles en faisceau. Quand on a deux aiguilles très longues par faisceau, il s'agit du pin rouge, affirme M. Villard. Quand on a deux aiguilles qui sont courtes, c'est le pin gris. Quand on a cinq aiguilles, c'est le pin blanc. Il ne faut pas oublier le mélèze, qui peut avoir de 15 à 60 aiguilles par faisceau. Ça n'a rien à voir avec le pin. En outre, les aiguilles du mélèze deviennent jaunes et tombent à l'automne. C'est un arbre qui pousse typiquement dans les tourbières, comme l'épinette noire, mais qu'on va aussi retrouver là où le drainage n'est pas très bon, indique M. Villard. C'est plus typiquement un arbre de la forêt boréale. Place aux feuillus. Du côté des feuillus, il faut regarder si les feuilles sont attachées aux rameaux deux par deux, une en face de l'autre, elles sont opposées, ou si elles ne le sont pas, elles sont alors alternes. Il faut aussi voir si la feuille est toute seule en un seul morceau, elle est simple, ou s'il y a plusieurs folioles, elle est alors composée. C'est ainsi que le frêne a des feuilles opposées composées. On va distinguer le frêne noir qui a plus de folioles que le frêne d'Amérique et le frêne rouge, indique M. Villard. Faire la distinction entre le frêne d'Amérique et le frêne rouge, c'est compliqué. Mais de savoir que c'est un frêne, c'est déjà une bonne chose. Les érables, eux, ont des feuilles opposées, mais simples. Elles sont faciles à reconnaître parce qu'elles sont lobées. L'érable à sucre et l'érable rouge sont deux espèces communes. La différence est subtile, il faut bien regarder. La feuille de l'érable à sucre a des marges entières. Il n'y a pas de petites dents entre les lobes et les pointes, alors qu'il y en a sur les feuilles de l'érable rouge. À l'automne, il y a un autre indice. Les feuilles de l'érable rouge deviennent vraiment rouges, alors que le feuillage de l'érable à sucre jaunit et prend à peine des teintes orangées. Il est toujours moins flamboyant, note M. Villard. Le chêne, le tilleul, le peuplier et le bouleau ont des feuilles alternes, poursuit-il. Le chêne, on le connaît. Il a des feuilles lobées. Le tilleul, lui, a une feuille cordifoliée, en forme de cœur, qui peut être énorme dans certains cas. Le peuplier a de petites feuilles plus ou moins rondes avec des pétioles. Dans le cas du bouleau, on a de petites feuilles simples, plus ou moins dentées, plus elliptiques que les feuilles du peuplier. Évidemment, le tronc bien particulier du bouleau aide à l'identification. Le tronc du bouleau blanc est bien blanc. Son écorce se détache en lambeaux, alors que l'écorce du bouleau jaune est plutôt dorée. Quand il est plus vieux, l'écorce du bouleau jaune devient plutôt plus rugueuse. Et le bel arbre du haut de la falaise, c'était un conifère avec des écailles, donc un très beau thuya. Maintenant, on le sait. C'était « Qui es-tu, bel arbre ?» un texte de Marie Tison, paru le 4 octobre 2025 dans la presse.
Des états généraux du droit pour l'accès à la justice. Un texte de Stéphanie Marin, paru le 18 novembre 2025 dans Le Devoir. Des citoyens qui sont perdus dans le labyrinthe de la justice. D'autres, qui ne connaissent pas les multiples lois et règlements, ni leurs droits, ou qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat pour les faire valoir devant un tribunal. Pour régler ces problèmes d'accès à la justice, l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, IQRDJ, lance en novembre 2025 les États généraux sur le droit et la justice afin de trouver des solutions concrètes et rapidement applicables. L'initiative a pour objectif de bien comprendre les difficultés vécues par les citoyens de leur point de vue. Les Québécois sont donc invités à suivre les travaux et à participer aux consultations publiques. C'est d'ailleurs cet élément de participation citoyenne qui est au cœur de ces États généraux, et c'est aussi leur élément distinctif, a souligné en entrevue Pierre Noreau, le président de l'IQRDJ, un organisme indépendant fondé en 2018, aussi coprésident du comité directeur des États généraux avec Marie Rinfret, ancienne protectrice du citoyen. Il s'agit là d'une initiative sans précédent de la société civile, indique-t-elle, ce qui garantit en même temps l'indépendance de ses travaux. En entrevue, elle détaille des difficultés de tous les jours rencontrées par les citoyens. Un locataire en conflit avec son propriétaire qui n'obtient pas d'audience devant le tribunal administratif du logement avant la date de renouvellement de son bail. Ou encore, un employé blessé au travail qui reçoit des prestations dont le montant est déterminé selon des calculs incompréhensibles et qui ne peut donc pas décider s'il fait appel devant une instance de révision. Un langage complexe. Quand on parle de problème d'accès à la justice, il n'est pas uniquement question d'argent, souligne-t-elle, donnant en exemple l'incompréhension des lois vu leur langage complexe. Mais ce l'est parfois, et c'est la raison pour laquelle, dans certaines juridictions, il y a plus de 50% des gens qui se présentent devant un tribunal sans avocat, précise M. Noreau. Il est clair que l'obligation devant laquelle se retrouvent beaucoup de citoyens aujourd'hui de devoir se représenter seul est comme le symptôme d'un manque d'accès à la justice. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de se payer un avocat. C'est un indicateur de la crise qu'on vit, dit-il. Mais se représenter seul, ce n'est pas simple, ajoute de son côté Mme Rinfret. Et pour d'autres, la justice est un peu un labyrinthe, poursuit celui qui est aussi professeur de droit. Des citoyens ne savent pas comment trouver un professionnel pour les aider, et même s'il y a beaucoup d'informations sur Internet, soutient-il, il y a tellement de sites juridiques que les gens ne savent pas vers où se tourner. D'autres projets au Québec ont pour objectif d'améliorer l'accès à la justice. Le barreau du Québec en mène plusieurs, tout comme le personnel des services d'aide juridique. La voix des plus vulnérables. Mais ce qui va toutefois distinguer les États généraux, explique Mme Rinfret, c'est la vision globale de l'initiative et de ses réflexions par la sollicitation de participants au-delà de la communauté juridique. Les juristes seront évidemment interpellés, dit-elle, mais aussi les acteurs du milieu communautaire qui sont la voix des plus vulnérables. Ils ont d'ailleurs proposé beaucoup de solutions dans le passé, comme les services d'accompagnement des citoyens qui se représentent seuls, renchérit M. Noreau. Les solutions qui sont moins connues devraient être mises en avant et être testées. C'est ce qui sera fait au cœur du processus des États généraux, qui se veulent un espace de réflexion, de travaux et de recherche devant se dérouler au cours des deux prochaines années. Mais pour M. Noreau, pas question d'attendre 2 ans pour fournir un gros volume offrant des solutions. Chaque fois qu'une idée sera validée, un rapport sera produit, souligne-t-il. Il faut que ça atterrisse dans la réalité. C'était « Des États généraux du droit pour l'accès à la justice », un texte de Stéphanie Marin, paru le 18 novembre 2025 dans Le Devoir. Thank you.
entente entre Ottawa et Québec sur les maladies rares, de grandes promesses, peu de réponses. Un dossier de Suzanne Colperon, publié le 14 novembre 2025 dans La Presse. 8 mois après la signature d'une entente fédérale de 305 millions destinée aux maladies rares, les organismes concernés n'ont toujours rien vu et Québec ne précise pas comment l'argent a été utilisé. C'est un dossier très préoccupant, affirme Jonathan Pratt, directeur du Regroupement québécois des maladies orphelines, RQMO. En mars 2023, Ottawa a annoncé une stratégie nationale de 1,5 milliard pour financer les médicaments traitant les maladies rares, dont 1,4 milliard de dollars devaient être versés aux provinces et territoires dans le cadre d'ententes bilatérales. L'objectif, faciliter le dépistage, le diagnostic et le traitement d'environ 3 millions de Canadiens atteints de l'une ou l'autre des 7 000 à 8 000 maladies rares connues, souvent sans traitement ou avec des médicaments hors de prix. On n'a jamais eu de réponse. Les négociations avec le Québec ont duré 2 ans, rappelle M. Pratt. Le 21 mars 2025, Québec signait enfin son entente. 305 millions sur 3 ans pour soutenir l'accès aux médicaments nouveaux et existants, le diagnostic précoce et le dépistage des maladies rares, ainsi que le plan d'action québécois sur les maladies rares 2023-2027, précisait le communiqué. Depuis, rien. Un tiers de la somme devait pourtant être dépensée avant le 31 mars 2025. Comment? Où? On n'a jamais eu de réponse à nos questions, déplore M. Pratt. Sollicité par la presse, le ministère de la Santé du Québec répond que les médicaments destinés au traitement des maladies rares sont couverts par l'entremise du Régime général d'assurance médicaments, RGAM, lequel couvre l'ensemble de la population, ce qui est unique au Canada. Le financement obtenu contribue à soutenir l'inscription des médicaments dont la valeur thérapeutique a été reconnue par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES, ajoute le ministère, tout en précisant qu'il n'est pas possible de fournir une ventilation plus précise des montants à ce sujet. Une réponse qui ne dit toutefois rien sur l'utilisation concrète des 305 millions. Demande d'accès à l'information. La députée libérale Marois Risky s'est saisie du dossier. Elle a interpellé le gouvernement en chambre et déposé une demande d'accès à l'information. Personne dans le réseau, que ce soit les chercheurs ou les médecins, ne sait où est cet argent. Honnêtement, si l'argent avait déjà été distribué dans n'importe quel groupe de recherche pour les maladies rares et orphelines, on le saurait déjà, dit Marois Risky, députée libérale. Recherchiste de Marois Risky, François Bégin a reçu, le 7 novembre, la réponse à sa demande. Une lettre signée par la responsable, Josée Martel, y précise qu'aucune reddition de compte n'est attendue du gouvernement fédéral. Le document fourni, l'entente officielle entre Ottawa et Québec, accessible sur le site du gouvernement fédéral, ne permet pas de savoir où sont passés les 305 millions. Cette réponse n'est pas conforme à notre demande et ne nous permet aucunement de savoir comment le gouvernement à utiliser les montants à sa disposition, réagit M. Bégin. Un grand écart avec d'autres pays. Sur le terrain, les attentes sont considérables. Le plan d'action québécois sur les maladies rares, adopté en 2023, prévoit 38 mesures, dont la création d'un registre provincial, l'accès plus rapide aux tests génétiques et le soutien à la recherche sur des maladies comme la maladie de Huntington qui frappe la famille de Nathalie de Passillé. On estime que plus de 90 % des maladies rares n'ont aucun traitement. Jonathan Pratt, directeur du Regroupement québécois des maladies orphelines. Selon M. Pratt, les 305 millions pourraient notamment financer un registre des maladies rares, accélérer les évaluations de médicaments et améliorer l'accès aux essais cliniques. Quand une compagnie dépose un dossier à Santé Canada, ça prend environ 2 ans avant que le patient ait accès aux médicaments. En France, en Belgique ou en Espagne, on parle d'à peu près 3 mois. C'est ridicule à quel point l'écart est grand, déplore-t-il. Gilles Tossing, chercheur en neurosciences au CHUM, est du même avis. Le nerf de la guerre, c'est toujours le financement. C'est ce qui manque tout le temps. Un tournant pour la communauté. Pour la communauté, l'enjeu dépasse la simple reddition de comptes. C'est la première fois que le Canada met de l'argent pour les maladies rares. C'est historique. C'est la première fois qu'il y a une stratégie. C'est la première fois qu'il y a de l'argent, résume Jonathan Pratt. La RQMO, Ataxi Canada et plusieurs autres associations de patients ont signé une lettre qu'ils comptent remettre sous peu au ministère de la Santé. Ce qu'on veut, c'est que l'entente qui a été signée de bonne foi soit respectée, conclut Jonathan Pratt. C'était Entente entre Ottawa et Québec sur les maladies rares. De grandes promesses, peu de réponses. Un dossier de Suzanne Colperon, publié le 14 novembre 2025 dans La Presse.